Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pierres sèches et de paysages, et plus particulièrement de l'intégration d'ouvrages en pierres sèches dans des projets d'aménagement d'espaces publics. Pour cela, je suis en compagnie de Mathilde Thomassin, chargée de projets paysages au Parc National. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
De Alicia Juge.
Bonjour.
Et de Manon Dickmann.
Bonjour.
Donc elles sont toutes les deux diplômées de l'école de la nature et du paysage de Blois, fraîchement d'ailleurs, semble-t-il. Elles achèvent actuellement un stage de 3 mois au sein du Parc National. Donc tout d'abord Mathilde, pourquoi le Parc National a-t-il lancé un appel à candidature pour un tel stage? Quel était, pourquoi et comment?
Alors en fait, au départ, le Parc participe à un programme qui s'appelle l'OBA Pro. Qui s'inscrit dans la continuité d'un premier programme qui avait eu lieu entre 2016 et 2019 qui s'appelait l'Obamac, dont certains ont peut-être entendu parler.
Et qu'est-ce que c'est?
Alors ce programme, ça paraît un peu abstrait au départ, mais en fait donc l'intitulé c'est de développer, enfin l'objectif c'est de développer et consolider les filières artisanales de la pierre sèche et de la lauze. Donc concrètement, il s'agit d'une démarche qui réunit 10 partenaires localisés dans le Massif central et qui vont porter des actions concrètes pour développer la filière. Alors ces 10 partenaires, je vais aller brièvement, mais bon, il y a des parcs naturels régionaux comme celui de l'Aubrac, du Quercy, celui des Grands Causses et des Monts d'Ardèche aussi. On a une communauté de communes, Lot et Truyère. Aussi l'école des mines d'Alès qui va porter des actions de recherche. Et puis des associations. Alors il y a Jean de Pierre qui est basé en Ardèche, les ALC artisans lauziers couvreurs qui sont à Mende, et puis bien sûr l'école de la pierre sèche à l'Espinasse, les ABPS, et enfin le parc national des Cévennes.
Et donc, dans cette action, donc, l'OBA Pro, le parc conduisait une action, donc.
Voilà, en fait, chaque partenaire porte une action et toutes ces actions, elles s'inscrivent dans des grands thèmes. Il y a des questions d'approvisionnement et de valorisation des ressources locales. Donc, par exemple, il y a des étudiants de l'école des mines qui ont été répertoriés, toute la ressource en lauze sur ce grand territoire. Il y a un volet recherche et développement, donc il y a des ingénieurs qui vont travailler sur la solidité des murs en pierre sèche, qui vont éprouver leur solidité en les poussant au maximum. Il y a un volet formation et qualification pour créer des diplômes spécifiques à la pierre sèche et à la lauze. De la communication et de la représentation aussi, la coordination de tout ça. Et nous, au niveau du parc, on s'inscrit dans une thématique qui s'appelle développement du marché. Notre action vise à promouvoir la pierre sèche dans l'aménagement de l'espace public. Donc concrètement, on veut favoriser l'usage contemporain de la pierre sèche et de la lauze dans l'aménagement d'espace public. Donc pour ça, on s'est dit, il nous faut des lieux concrets pour travailler, pour tester, pour voir ce qu'on peut proposer. Et on a choisi 3 sites de projet qui nous tenaient à cœur, parce que ça fait très longtemps qu'au parc, on se dit que c'est des endroits sur lesquels on aimerait bien voir se développer des projets. Et il s'agit de 3 cols sur le parc. Il y a le col de Perjuré, le col de Montmira et le col de Jalcrest, sur lesquels on a mené une réflexion là pendant 3 mois. Et donc un vrai travail, elles vont en parler, mais un vrai travail de paysagiste, et pour avoir au bout du compte des éléments concrets à proposer aux différents partenaires.
Très bien. Donc, comme vous l'avez dit, Mathilde, donc Alicia et Manon, donc vous avez étudié ces 3 cols qui sont tous les 3 des portes d'entrée du territoire. ils ont des points communs, ils sont aussi en désuétude. Alors, voilà, quel diagnostic vous avez pu établir pour ces trois cols ?
Donc, on a commencé effectivement par un diagnostic, et puis ensuite, on a établi des enjeux pour arriver finalement à des réponses de projet. Et donc, pour le diagnostic, on pourrait d'abord dire que c'est des cols qui sont généralement habités à l'année. Donc, par exemple, pour le col de Père Juré, il y a quand même un couple qui vit à l'année. Et après, on a des restaurateurs, généralement. C'est aussi des cols qui, avec des espaces agropastoraux à proximité, où de nombreux usagers peuvent se retrouver. On a le passage de GR, de Drail, mais également des axes routiers très forts où la voiture est priorisée.
Oui, voilà, ces espaces en général avec une empreinte agropastorale très forte, avec la présence de Drail qui marque vraiment dans le paysage justement une empreinte qui nous rappelle justement ce passé-là et qui est valorisable en fin de compte, enfin qui demande à être valorisé dans ces espaces-ci. Parce que c'est quelque chose d'assez identitaire, nous on vient pas de la région. Personnellement j'ai découvert l'existence des Drails ici et c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été fort fort dans ce paysage-là.
On a rencontré des problématiques communes sur ces trois cols, comme une gestion de l'eau étant donné qu'on se situe à la rencontre de deux versants, donc des problématiques liées à l'eau. On a aussi une grosse problématique routière parce qu'on n'annonce pas forcément la rencontre de différents usagers. Et comme la voiture est souvent priorisée, on a des problématiques liées à la rencontre des différents usagers. On a également des problématiques finalement liées au dépôt parce que comme ce sont des endroits qui permettent le passage d'une vallée à une autre. On a l'envie, généralement, de déposer des matériaux ou des véhicules en attente. Et c'est particulièrement dommageable parce que sur ces cols-là, on a une relation au grand paysage qui est très, très importante puisqu'on a des vues qui s'ouvrent à la fois sur les vallées, mais également sur le grand paysage. Et donc, ça vient finalement dévaloriser ces espaces qui pourraient être mis en valeur.
C'est en fait des lieux où on a plus envie de s'arrêter, on n'en voit pas l'intérêt en fait, c'est ça. Et l'idée c'était vraiment de leur redonner leur authenticité. Vous avez peut-être fait des recherches justement pour voir à l'époque à quoi ils ressemblaient, enfin pour vous inspirer un peu pour faire des propositions.
Oui, c'est ça. Dans un premier temps, du coup, on a été sur le terrain. On a été très vite propulsés sur les sites, donc on a rencontré des gens qui nous ont raconté des choses en permanence, que ce soit dans le passé ou ce qu'ils aimeraient ensuite que ça devienne. Et ensuite, on a fait des recherches sur des orthophotos, enfin des photos satellites, donc avec remontées dans le temps avec Géoportail. Et notamment, on s'est attaché à regarder des cartes postales anciennes. Par exemple, au niveau du col de Jalcrest, on pouvait voir que au niveau en face du restaurant Le Phénix, il y avait une sorte de petit jardin qui donnait une vue incroyable sur la vallée longue. Et justement, c'est des espaces qui, du coup, d'après ces photos-là, qui nous ont énormément inspirés, parce qu'en fin de compte, il y avait déjà une réponse paysagère forte à l'époque et qui pouvait être pas réutilisée en tant que telle, mais qui pouvait être en tout cas inspirante pour la proposition d'aménagement par la suite. Donc vraiment, l'orthophoto, vraiment outil précieux, et les cartes postales anciennes intéressants.
C'était des espaces boisés où on sentait aussi l'histoire du lieu, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Oui, des fois oui, des fois non. Si on reste justement sur Jalcrest, tout ce qui était au niveau de la forêt de Fontmort, c'était très dégagé. Il y avait l'agropastoralisme était très très poussé, donc des prairies qui étaient entretenues. Donc vraiment sur ces photos-là, si on prend un peu de recul, au contraire, on est sur des cols qui sont assez nus. Et en fin de compte, à certains endroits, justement, on a de l'enrésinement, de l'essaimage de résineux, et justement qui vient fermer ses vues. Et dans certains cas, en termes de percées et de vues, des fois, ça peut poser problème. Pour justement ces ouvertures et se rattacher dans le grand paysage, comprendre où est-ce qu'on se situe et voilà.
On a également eu une problématique liée à la compréhension de la géologie du site, parce qu'on est aussi là aujourd'hui pour vous parler de pierres sèches. C'est vrai que Les trois cols se situent à des rencontres géologiques très importantes, donc que ça soit à la rencontre du schiste, du granit, mais également du calcaire. Et aujourd'hui, on ne valorise pas du tout l'utilisation de la pierre locale, et donc on vient perdre finalement cette attache au paysage et à la géologie du site. Et justement, la fermeture des vues qu'on peut avoir sur le grand paysage à cause de ces fermetures de milieux et de ces arbres qui sont plantés. Eh bien, ça nous empêche de comprendre sur quel socle on se situe.
Très bien. Et du coup, quelles solutions vous avez, quels aménagements, quelles propositions avez-vous effectuées pour ces différents cols ?
On a eu des réponses assez différentes pour chaque col, puisque le diagnostic et les enjeux amènent finalement à des propositions très différentes. Donc, par exemple, pour vous parler un petit peu du col de Père Juré, on s'est vraiment appuyé sur l'histoire agropastorale du Cosmé-Jean qui est à proximité, et on a décidé de décliner la calade qui était à l'origine, qui formait la draille qui passe par le col. On a décidé de s'en inspirer et de venir créer une calade qui crée une place publique sur le col, qui viendrait se déformer pour accueillir des espaces vélos, mais également un point d'eau pour les marcheurs ou les cyclistes qui souhaitent s'arrêter et s'abreuver. Pour le col de Jalcrest, on a vraiment travaillé sur la place de la voiture et des camions, qui actuellement est vraiment omniprésent. Et donc on a décidé de laisser la place aux vues et à la visibilité du grand paysage pour venir mettre les voitures à des endroits moins visibles sur l'ancienne plateforme, enfin sur la plateforme de l'ancienne scierie plutôt. Donc ça a été plutôt sur Jalcrest, je dirais, une modification des espaces de parking et également la création d'un jardin méditerranéen avec une vue sur la vallée longue pour permettre vraiment de s'accrocher au versant méditerranéen. Et puis pour le col de Montmira, on avait aussi des problématiques de stationnement qui venaient gêner la vue sur la vallée du Bramont. Et donc on est venu ouvrir des vues sur cette vallée et on est venu un petit peu ranger, je dirais, les places de stationnement en apportant des espaces qualitatifs devant l'auberge du col.
Il y a également des projets de plantation d'arbres, enfin sur certains cols, hein, pas tous.
Oui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très ressorti pendant nos entretiens, c'est-à-dire le manque d'espace pour s'arrêter, mais notamment aussi dû au fait qu'il y a de manque d'ombre et de fraîcheur, surtout notamment pour les sportifs, les marcheurs, les cyclistes, des gens qui ont besoin de s'arrêter, de se rafraîchir, et du coup la place de l'arbre est primordiale à ce moment-là, et ça vient poser un paysage aussi particulier en ces cols qui pouvaient être un peu nus, et oui, du coup c'est très important. Hein.
Vous avez été conseillé par des professionnels. Enfin, ça s'est passé comment pendant ces 3 mois ?
Étant donné que on a vraiment souhaité utiliser et valoriser la pierre sèche dans nos projets, on a été beaucoup accompagné par l'association ABPS, à qui on a demandé des conseils des conseils précieux, étant donné que pour l'aménagement de ces 3 cols, on a à chaque fois donc effectivement utilisé le végétal, mais également la pierre, en repartant de la géologie du site, comme je l'expliquais tout à l'heure, et en venant créer en venant proposer finalement des aménagements en pierre sèche, que ça soit à la fois des murets pour séparer les places de stationnement, mais également utiliser des murets de soutènement pour venir s'écarter de la route, ou alors venir créer des tables d'orientation en pierre sèche pour comprendre l'environnement qui nous entourait. On a également proposé de venir utiliser la lavogne comme élément pour s'abreuver, donc comme fontaine. Et en fait, tout ça, ça a été possible que grâce aux connaissances des artisans bâtisseurs, étant donné que nous, on avait une idée et ils venaient vraiment nous aider à la mettre en place et à concrètement savoir comment la réaliser. Donc c'est ce qui donne aussi une force au projet. C'est très important d'inclure finalement les professionnels de la pierre sèche à l'intérieur de ces propositions d'aménagement, étant donné que c'est eux qui ont le savoir. Donc voilà, on a vraiment fait appel à eux, et puis à côté de ça, les élus aussi des communautés de communes ou des collectivités nous ont apporté leur regard vis-à-vis des usages sur ces cols, donc on a été bien entourés.
Justement, vos travaux ont été présentés aux acteurs concernés, aux communes, où sont positionnés ces trois cols. Comment les collectivités, les élus ont-ils réagi à ces propositions ?
On a eu quatre réunions, en fait, où on les a beaucoup mobilisés, et ils ont toujours répondu présents, donc on les remercie d'ailleurs pour ça. À chaque fois, on avait des étapes un peu différentes où on leur proposait tout d'abord le diagnostic, les enjeux, pour finir sur les aménagements. Et je dirais que ça a été assez bien accueilli. Ça leur faisait plaisir finalement de voir que ces cols, ils pouvaient avoir un avenir autre que celui dont on parlait au début, c'est-à-dire en désuétude.
Ils en avaient conscience de ça ou pas forcément ?
Oui, quand même, il y avait une certaine forme d'attente derrière tout ça, même si la démarche venait du parc et que, au final, on est plus en quête d'une maîtrise d'ouvrage ensuite après ce travail-là, mais ils étaient vraiment présents et on a senti vraiment leur implication et du coup, d'une certaine forme, oui, une certaine forme d'attente. Donc, on a réussi à faire des ateliers avec eux au moment où on construisait, on avait fait un enjeu de paysager en amont qu'on leur a présenté, on leur a dit ensuite qu'on avait des enjeux, et ensuite ils ont participé avec nous au dessin des premières propositions, et dans ce sens-là on a compris un peu davantage ce qu'ils attendaient et on a pu construire les premières propositions avec eux, donc oui, on imagine qu'il y avait une forme d'attente derrière tout ça.
Très bien, je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale avant de terminer l'émission. Donc nous avons évoqué à l'instant donc votre projet, vos réflexions, vos propositions concernant le trois cols hein, du territoire, Jalcrest, Montmirat et Perjuré. Mais vous n'êtes pas arrêté là, vous avez fait également d'autres propositions pour des espaces, pour donc des aménagements d'ouvrages en pierre sèche dans l'espace public, plutôt en milieu urbain, par exemple pour des places de village, pour mieux stationner, pour pouvoir s'asseoir. Alors expliquez-nous un petit peu votre démarche pour cette seconde partie du stage.
Pour cette seconde partie du stage, on s'est attaché du coup à développer un peu les propositions qu'on avait faites déjà sur les trois cols. Donc en général, on avait du coup cette approche paysagère avec des réponses paysagères, mais aussi des réponses liées à la pierre sèche. Du coup, on avait en général 3-4 propositions d'aménagement en pierre sèche. Et le but, c'était vraiment de développer ces propositions pour qu'elles soient transposables sur d'autres cols, mais davantage encore à d'autres contextes, comme vous disiez, des places de village ou alors des places peut-être un peu moins village, peut-être petites villes, ou dans des contextes beaucoup plus ruraux. Donc voilà, le but c'était de venir tirer des fils à partir de ça pour permettre ensuite à des aménageurs comme des paysagistes, des urbanistes ou des architectes de pouvoir ensuite se saisir de ces propositions et les développer dans d'autres aménagements ou alors pareil, continuer à parler à des collectivités locales ou territoriales pour les inciter à justement poser des aménagements, enfin demander en tout cas des aménagements en pierre sèche dans leur cahier des charges. Donc voilà, on a commencé à proposer de différentes des choses qui étaient à partir de nos premières propositions.
Et donc en fait pour ça, on s'est attaché à essayer de répondre à des questions de problématiques d'aménagement public, c'est-à-dire comment stationner, comment s'asseoir, comment s'abreuver, comment jouer. Aussi, comment finalement occuper l'espace, vivre les lieux. Et donc, pour cela, on a essayé de proposer plusieurs aménagements. Donc, ce sera visible dans un petit carnet de propositions. Pour vous citer quelques propositions qu'on a pu faire, on a essayé d'inventer des jeux pour enfants en utilisant la pierre sèche. Donc, ça peut être des tunnels en pierre clavée, ça peut être des pas sautés en venant finalement... comment expliquer ça?
Les pas sautés. En gros, c'est des sortes, toujours dans l'esprit de la calade, qui va venir se déformer, qui va venir se creuser. Et au milieu de cette espèce de trou, on va avoir des blocs plus épais qui vont ressortir à hauteur de pas, et pour que les enfants puissent sauter de bloc en bloc et faire une sorte de rivière un peu, enfin pas de rivière parce qu'en fin de compte c'est
des pas japonais,
en hauteur 40 cm norme de sécurité. et voilà, pour que, enfin, qu'il y ait une sorte de jeu
En utilisant toujours la pierre du site, donc imaginez par exemple des blocs de granit, voilà. Ensuite, pour s'asseoir, on a imaginé des assises en cercle, en anneau, ou alors des assises vraiment en banc, mais en utilisant plusieurs pierres, par exemple une partie en schiste, une partie en calcaire, pour essayer de comprendre effectivement qu'il y a des géologies différentes à proximité. Les vélos, étant donné que les cols sont généralement des lieux de passage et de défi pour les marcheurs, mais également pour les cyclistes, on a essayé d'inventer des cale-roues où on viendrait scier une dalle et dans laquelle on pourrait venir rentrer sa roue pour le poser le temps de profiter du paysage. Puis on s'est aussi beaucoup attaché à essayer de trouver des réponses pour s'abreuver et également pour rafraîchir l'espace public dans le contexte de changement climatique. Ça nous paraissait important d'essayer de trouver des solutions pour réduire les îlots de chaleur urbains. Donc on a essayé de travailler sur des fontaines en réseau en utilisant de l'argile en fond pour venir garder l'eau dans des sortes de lavognes, ou en tout cas dans des fontaines. Voilà, tout ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les voir dessiner.
Donc ce sont des aménagements pratiques, simples. L'idée, c'était pas de faire de l'art au milieu du village, en fait.
Non, du tout. Surtout que dans le cadre d'école, on était vraiment sur des sites où le spectacle, en fin de compte, il était à l'extérieur d'école et c'était pas tellement le col en soi. Donc le but, c'est pas de venir attirer l'œil sur le col, mais c'est vraiment de permettre, une fois qu'on est en sécurité sur ce col, qu'on s'y sent bien, de pouvoir s'ouvrir au paysage extérieur. Et voilà, le spectacle, il est à côté, il est pas dessus, et voilà. Et du coup, il faut rester humble, et du coup, les propositions se veulent assez simples, en fin de compte, fonctionnelles et ancrées dans le site.
Voilà, et ça permet de le valoriser aussi.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, enfin, pour le, au niveau du parc Mathilde, enfin, la valorisation de la pierre sèche, ça fait partie des engagements des communes, hein, qui ont adhéré à la charte.
Oui, et c'est un axe fort qu'on a vraiment envie de développer. C'est pour ça que le parc vraiment participe à ce programme Loba Pro. Et là, ce qu'on a pu constater, c'est que en termes de valorisation de ce travail réalisé par Manon et Alicia, il y a vraiment un impact qui a commencé dès le début du stage, c'est-à-dire que toutes les rencontres qu'on a pu faire avec les élus, les habitants, avec aussi beaucoup le service des routes du département, de la DIR, on a en fait ça a été un bon point de départ pour parler de la pierre, tout simplement. On a pu, à cette occasion-là, parler de la pierre sèche, expliquer un peu ce que c'est, et faire se rencontrer des acteurs qui se rencontrent pas souvent. Et on a été surpris de la manière dont ça a retenti. Et il y a une... Je pense qu'en termes de d'impact, ça a été assez immédiat. Et après, on était assez ambitieux en termes de valorisation de leur travail, c'est-à-dire qu'on avait prévu une exposition, bon, qui n'a pas pu se faire à cause de l'histoire de passe sanitaire, mais on a prévu en effet une petite plaquette, un petit cahier de recommandations qui pourrait être à l'usage des prescripteurs, comme en effet, comme elle le disait tout à l'heure, les paysagistes, les urbanistes, les architectes. On aimerait qu'ils puissent se saisir de ce document-là, s'en inspirer, et puis que ça puisse aussi, même, ça serait l'idéal, que ça devienne un document passerelle un peu entre les prescripteurs et les artisans. En fait, leur travail, il a consisté à vraiment toujours faire le lien entre celui qui dessine le projet et celui qui le réalise. Et ça, on n'a pas toujours conscience de la marge qu'il peut y avoir et entre les deux. C'est des domaines différents, des milieux différents. Et donc là, le fait qu'il y ait des allers-retours les plus fréquents entre des paysagistes et des artisans qui, eux, vont savoir construire l'ouvrage. Parce que dessiner un mur de pierre sèche, on s'en est rendu compte, c'est assez difficile. Mais en fait, l'aspect et la forme découlent vraiment de la conception de l'ouvrage. Donc, si on n'y connaît rien en pierre sèche, on peut pas dessiner un mur. On se trompe, on fait des choses qui tiennent pas debout. Donc il faut qu'il y ait cet aller-retour entre le concepteur et l'artisan. Et donc on espère, donc on se pose encore la question de la forme définitive du document, ce qu'on avait imaginé, ce petit cahier de recommandations, voilà, c'est simple, à la fin on compile les bonnes idées. Mais non, en fait, je crois qu'il faut qu'on aille plus loin là-dedans. Et le fait d'être inscrit dans ce programme Loba Pro, ça nous permet de rencontrer très régulièrement à l'occasion de comités techniques, des gens qui, eux, de leur côté, travaillent aussi. C'est ça l'idée, hein, c'est que plutôt que de chacun travailler dans son coin pour valoriser la pierre, eh ben, il y a des échanges. Quand on se retrouve dans ces comités, c'est très
riche. Vraiment structurer les filières, voilà. En fait.
Et puis du coup, on a envie de continuer ce travail, de le laisser ouvert et qu'il puisse continuer à être alimenté par de nouvelles idées et puis des retours d'expérience aussi. Parce qu'elles ont dessiné de belles choses. Maintenant, faut voir, une fois réalisé, comment ça fonctionne et comment après on peut assurer une sorte de suivi de ce travail, quoi.
On entend souvent dire à propos de la pierre sèche, bah oui, c'est voilà, elle revient à la mode, oui, mais ça coûte plus cher. Alors, est-ce que ça coûte vraiment plus cher?
Alors, si on se base sur le coût de la réalisation au départ, la construction du mur. Oui, il y a un surcoût, c'est vrai. Et c'est justement là que c'est important de le prendre en compte quand il y a des appels d'offres. C'est que il faut qu'il y ait le budget pour l'ouvrage en pierre sèche. Donc, au départ, oui. Mais si on prend un peu de recul, En termes d'investissement et en termes de fonctionnement, d'entretien par la suite, en fait, c'est des... Enfin, il n'y a pas que le coût de réalisation, il y a le coût, l'impact sur l'environnement, parce que c'est les murs de soutènement en pierre sèche, c'est des murs qui sont drainants. Donc, en termes de résistance au passage de l'eau, ça va être bien plus durable. Il y a toute, une biodiversité, une petite faune, une flore qui se développe dans ces murets. Donc, si on prend en compte le coût. Enfin, il n'y a pas que le coût.
Par rapport aux bénéfices, en fait, voilà, c'est un investissement
environnemental et structurel et par rapport à la gestion de l'eau et tout. En fait, au final, je pense que ça coûte moins cher.
On est gagnant. Alicia, Manon, c'est votre dernier jour de stage. Est-ce que peut-être un petit mot sur ces 3 mois? Qu'est-ce que vous avez retenu? Enfin, je sais pas, une anecdote, quelque chose qui vous aura marqué?
Déjà, on voudrait remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnées pendant ce stage. On remercie beaucoup Mathilde, quand même, de nous avoir...
Merci Mathilde.
...de nous avoir beaucoup appris. On remercie également les ABPS qui ont pris beaucoup de leur temps. C'est des artisans à côté, donc ils ont du travail et ils se sont toujours rendus disponibles pour nous aider. On remercie également toutes les personnes qui nous ont accueillis sur l'école, les aubergistes, les restaurateurs, et puis les personnes qui y habitent et qui ont pris de leur temps, aussi personnel, pour répondre à nos questions. Et puis, merci au parc de nous avoir pris en tant que stagiaires. On reviendra, c'est sûr, dans les Cévennes après cette belle expérience.
Et justement, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, que vous avez retenu, si vous ne connaissiez pas la région, enfin...
c'est un peu bateau, mais la beauté des paysages, les montagnes, enfin, on vient un peu de régions un peu plates, nous, cet encaissement, de passer de paysage en paysage, on passe très vite d'un milieu à un autre, et ça nous a vraiment marqué, comment en l'espace de 20 minutes on est capable de passer du Causse de Sauveterre, après à la vallée d'Espagnac, en tout cas c'était vraiment l'enchaînement des paysages, franchement, c'est quelque chose qui nous a quand même énormément marqué et qu'on a vraiment adoré.
Eh bien, je vous remercie. Bonne continuation. C'est la fin de cette émission. Donc, à bientôt.
Merci.
Merci.
Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.